La dernière ici à Avignon. À partir de lundi, vous retrouverez pour cette grande table d'été Martin Kénéen en direct de Paris. On est ravis de vous avoir tous. N'hésitez pas à vous asseoir si vous voulez rester avec nous jusqu'à 13h50. On est en direct du site Pasteur de l'Université d'Avignon. Bienvenue. La grande table sur le pont pour vous faire vivre toute cette semaine, cette 71e édition du Festival d'Avignon. Aujourd'hui, fin, toujours en public et en direct du site Louis Pasteur de l'Université pour les festivaliers. Vous êtes aussi avec nous en direct, bien sûr, sur France Culture et sur franceculture.fr. Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur le pont d'Avignon, on y danse, assurément, et on prend un ticket pour Agnès B. en Avignon. La styliste présente sa collection dans l'hôtel rénové de la collection Lambert. Éric Mézil, le directeur de la collection, est ici pour nous en parler. À nos côtés aussi, Thierry Tionyang, en maître de ballet. Un ticket d'entrée également pour la sacrée fiesta organisée dans la cour du Palais des Papes par un danseur torero, l'enfant passage du flamenco. Le chorégraphe andalou Israël Galvan nous rejoindra d'ici une vingtaine de minutes. Et un aller simple, enfin, pour les Sud de Arles, Festival des musiques du monde, avec le slammer Kanak Paul Wameau en live tout à l'heure. Avignon, dernière, tout de suite, c'est votre grande table d'été, le magazine culturel de France Culture, votre rendez-vous quotidien à écouter jusqu'à 13h50.
J'ai toujours voulu montrer que j'avais des goûts éclectiques, que c'était la qualité qui dirigeait mes choix. Et j'ai commencé à me faire confiance quelque part dans mes choix, parce que je suis très instinctive, donc j'ai du doute aussi, heureusement, mais j'ai appris à faire confiance à mon œil. Une des premières pièces que j'ai achetées aussi, c'est l'autoportrait de Basquiat. Ce dessin, je l'ai mis avec deux punaises dans les trous où étaient les punaises de Basquiat. Il est resté au mur comme ça chez moi pendant plusieurs années, en fait. Et c'était, j'avais pas encore une collection, j'avais pas l'impression d'avoir une collection.
Cette voix, vous la reconnaissez peut-être, c'est celle de la styliste et collectionneuse Agnès B. Un été à la collection Lambert, ça se passe comme ça. En quatre expositions majeures, Anselm Kiefer qui révèle la vie secrète des plantes, Case Haring est là aussi, les visages de la photographe franco-marocaine Leila Alaoui, morte dans l'attentat de Ouagadougou en janvier dernier, en janvier 2016. Elle est présente dans une exposition avec ses visages qui nous marquent, qui nous parlent. L'expo s'appelle « Je te pardonne ». Et puis il y a aussi « On aime l'art », l'exposition d'Agnès B., la créatrice de mode, qui présente ici à Avignon 400 œuvres, une grande partie de sa collection aussi large qu'éclectique, avant d'ouvrir sa propre fondation d'art contemporain et de photographie. Ce sera au printemps prochain. À nos côtés pour en parler, Éric Mézil, directeur de la collection Lambert. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Quelle collectionneuse est Agnès B? Elle est compulsive, défricheuse, distante, affectueuse. Comment vous la définiriez?
Alors, elle est vraiment affectueuse, ça c'est clair. Elle s'est définie très, très joliment tout à l'heure en disant qu'elle était beaucoup dans le doute. J'étais très étonné de toute la préparation de l'exposition, de voir quelqu'un qui ne se rendait peut-être même pas compte qu'elle avait une véritable collection qui pouvait faire l'objet d'une fondation ou d'un musée, ce qui va être le cas, je crois. Donc, en fait, on a travaillé ensemble de manière un petit peu comme deux chats qui se rencontraient, qui se découvraient. Moi, j'avais une idée très précise, à savoir que je ne souhaitais pas renouveler les expositions qui avaient déjà été faites sur elle à travers sa collection, où on avait souvent parfois l'impression qu'il y avait comme une sorte de saupoudrage avec beaucoup de photographies, surtout, bien sûr, avec des thématiques qui sont les siennes, sur l'adolescence, sur le rock, mais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. Et je trouvais qu'il fallait que dans cette exposition, qu'il y ait une sorte d'autoportrait, ou en tout cas un portrait en creux qui soit fait d'elle. Et c'est ce que j'essayais de faire. Donc, très généreusement, elle m'a donné la clé de sa collection avec les 5000 références. C'était énorme. Donc, tout l'hiver, j'ai passé un travail comme cela de récollement, de mise en thématique. Et en fait, très vite, des thématiques se sont créées. Certaines étaient évidentes, sur l'Afrique, sur l'Orient, sur l'engagement politique, par exemple. Mais d'autres étaient très étonnantes et tout d'un coup devenaient vraiment des images d'elles-mêmes très fortes sur le cosmos, sur les étoiles, sur la mélancolie, sur le sommeil. Et je me suis dit que là, il y avait certainement des choses à faire. Et puis, bien sûr, par rapport à Yvon Lambert, le grand collectionneur, qui est son ami, qui sont très proches l'un et l'autre, je trouvais que c'était passionnant de montrer des passerelles et comme je disais, le doute vraiment est inhérent à son travail, en tout cas pas de styliste mais de collectionneuse, et je voyais qu'elle était très très émue et très perplexe au départ, et maintenant je sais qu'elle est vraiment enchantée parce que des œuvres qu'elle a pu présenter ou qu'elle a pu acquérir dans les années 80, elle parlait effectivement de Jean-Michel Basquiat, mais de tous ces artistes qu'on appelle les artistes du street art, de tous ces artistes des rues qu'elle a continué à acquérir et à défendre depuis 86-88, maintenant prennent leur place dans un musée, et en fait tout d'un coup qu'ils soient exposés comme des œuvres de Reimann, de Twombly, de Kiefer dans les salles de la collection Lambert, était pour elle, je crois, une sorte de consécration, une émotion très 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 forte qu'on voyait à chaque jour où on accrochait les œuvres au fur et à mesure, et ça c'était pour moi une fierté, un engagement, enfin une consécration en tout cas, de la reconnaissance d'un travail vraiment merveilleux et d'une très belle collaboration entre elle et moi.
Elle parle de cet œil dans l'extrait qu'on a entendu qui s'est petit à petit affiné. Pour elle, c'était pas au départ, dites-vous, une collectionneuse compulsive, en tout cas il n'y avait pas l'idée d'acquérir pour acquérir, pour collectionner, pour entreposer. C'est vraiment parti de coups de cœur, de rencontres qu'elle a pu faire. C'est très lié à des épisodes de sa vie. À travers ça, on se rend compte aussi qu'elle a été très à l'avant-garde sur beaucoup de ses choix, c'est-à-dire beaucoup d'artistes, photographes, peintres qu'elle a pu acquérir à un moment ou à un autre par leurs œuvres étaient totalement inconnus au moment où elle les découvre. Hein.
En fait, là où elle est incroyable, c'est que c'est quelqu'un qui est sûr célébrissime dans le monde entier pour ses collections de vêtements depuis 30 ou 40 ans. Et je pense qu'elle, c'est mon interprétation, hein, j'ai l'impression qu'elle s'est presque cachée un petit peu à travers cela, car en mettant comme ça une espèce de masque comme ça d'être cette star de la vraiment de la couture et des vêtements, puisque de David Bowie à David Lynch, tous ont été habillés par elle, mais derrière cela, il y a un personnage qu'on connaît moins, c'est celle qui est la productrice de films inconnus, de concerts totalement étranges, d'un cinéma indépendant américain ou africain qu'elle défend. Par exemple, j'étais impressionné de savoir qu'elle me dit « Ah là, je pars à Sarajevo, c'est le 22e anniversaire du festival de Sarajevo et c'est moi qui ai initié ce festival de films. » Et je me dis « Waouh, la femme, elle a vraiment un courage, personne ne le sait, elle n'en parle jamais. » Comme vous le disiez tout à l'heure, moi j'ai une autre exposition de Leila Alaoui, cette femme qui est morte dans un attentat à Ouagadougou, elle me dit « Mais oh, c'est drôle, j'ai une photo d'elle. » Je dis « Mais non, mais c'est pas drôle, c'est formidable, on va la montrer en côte à côte. Et pourquoi tu l'as acquise ?»« Ah ben c'était pour un dîner de charité pour des enfants en Afghanistan. » Et on voit comment voilà, cette collection se constitue avec vraiment un regard extrêmement... une très grande finesse sur l'actualité, une grande émotion et un regard sur son temps et sur un rapport à la jeunesse, sa jeunesse de l'esprit qui est incroyable.
Cette exposition s'appelle « On aime l'art », des œuvres acquises pour être partagées. C'est peut-être le sens du titre de cette exposition, le « On », du collectif, du partage et non pas le jeu de la collectionneuse. On le disait avec vous, Éric Mézil, malgré tout, cette exposition nous parle beaucoup d'elle, de ses goûts, de ses choix, de ses rencontres, de son parcours. Mais ça nous parle aussi d'époques traversées. Il y a plus d'une trentaine d'années qui sont couvertes par ces œuvres qu'elle a pu acquérir. Et je trouve qu'on pourrait quand même commencer par dire un mot de cette salle africaine dans laquelle on entre assez rapidement. Et on a aujourd'hui l'Afrique qui a été très présente à la collection Vuitton à Paris, avec cette saison africaine aussi que la Villette a pu organiser. On a l'impression qu'aujourd'hui l'Afrique est à la mode, en tout cas l'art africain.
Même au festival,
c'est vrai, à travers la programmation d'Olivier Py. Alors que pour elle, cette histoire d'amour avec l'Afrique est née quand même assez tôt.
Alors en fait, ce qui est très joli, c'est qu'elle est toujours très reconnaissante des rencontres qu'elle a pu faire ou des expositions qui l'ont marquée. Elle fait partie d'une génération, même si je suis plus jeune qu'elle, j'ai eu le même choc, de cette grande exposition qui s'appelait Les Magiciens de la Terre au Centre Georges Pompidou, où on découvrait pour la première fois un art dit non occidental, à savoir un art venu d'Afrique, d'Océanie, de peuplades complètement reculées d'Amazonie. Elle a été absolument marquée par cela et elle a commencé à acquérir des œuvres effectivement d'Afrique. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle a acheté à la fois des œuvres pour sa propre collection, elle a constitué aussi des collections pour sa propre galerie, car en 81 elle ouvrait la galerie du jour. Et il y a à la fois des photographies merveilleuses de Keta Saïdou, qui sont des choses merveilleuses, et en même temps, ce qui est assez émouvant, de Chéri Samba, elle prend des photos, on a choisi des peintures totalement inquiétantes ou qui sont une espèce d'une ironie dramatique sur la cause africaine actuelle, où on voit comment ces artistes se moquent d'une Afrique où effectivement les politiciens sont vraiment complètement corrompus et que la pauvreté est vraiment la misère complète. Il y a une œuvre majeure qui s'appelle Medicament City, qui est une sorte de sculpture faite de gratte-ciel et en fait composée seulement de marques de médicaments qui sont des médicaments frelatés qui sont vendus très peu cher pour les Africains, soi-disant pour guérir le sida ou autre maladie, bien sûr qu'on ne peut pas à guérir, et c'est vraiment de montrer comment elle s'est engagée dans cela. Et je trouve que cet engagement-là est une des clés aussi très très importantes pour comprendre cette collection.
Il faut comprendre aussi le lien qu'elle entretient avec la jeunesse qui est certes l'avenir, mais il y a toute cette salle qui est consacrée à des photos d'adolescents ou adolescentes. Quelle est la particularité? Alors, on a toujours l'idée qu'Agnès B est restée une grande enfant elle-même, et qu'est-ce qu'elle retrouve dans ces photos-là?
Eh bien, justement, pour moi, on va dire que les photos, on les connaissait, ou certains, enfin, on les connaissait pour la plupart. Par contre, moi, ce que je trouvais ça formidable, et là, c'est la première fois qu'on les montre, il y a 5 dessins de Andy Warhol de 52-54, jamais présentés, et qui sont vraiment des purs chefs-d'œuvre, parce que il est encore à Pittsburgh, il n'a pas quitté la province américaine pour aller s'installer à New York et donc être la star que l'on sait après. Et vraiment, je trouve merveilleux que Agnès B ait l'œil de pouvoir faire ce lien entre ses œuvres sur papier.
Et c'est vraiment des croquis dessinés,
des croquis
sur un carnet,
de jeunes garçons, de jeunes filles, ouais. Assis sur une haie, sur une, voilà, qui sont vraiment dans une espèce d'attente d'une jeunesse ennuyeuse, comme ça, dans la province d'où il est originaire. Et ça, elle va s'intéresser à cela parce que justement, ça fait la connexion merveilleuse avec ces photographies où l'on voit cette jeunesse qui est un peu plus âgée, 17-18 ans, qui effectivement découvre l'érotisme et la sexualité avec des photographies de Larry Clark, par exemple, ou des dessins ou des photographies de Roger Baleine, plus rock'n'roll et plus violentes, et qui sont, je trouve, tout à fait formidables.
Un goût marqué par l'éclectisme. Elle dit qu'il y a un fil conducteur quand même dans le choix de toutes ces œuvres qu'elle a pu réunir au fil des années. C'est l'humour. L'humour et la poésie à travers cet humour.
Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie. Je trouve qu'effectivement, on a essayé de mettre en relation aussi des œuvres, par exemple, comme vous le disiez tout à l'heure très justement, son premier job à Paris, parce que c'était vraiment un job, elle avait 17-18 ans, c'était à la galerie Jean Fournier, qui a été un grand marchand, qui avait présenté Entaille, et elle a souhaité bien sûr qu'on ait quelques œuvres de Entaille dans cette collection, et qu'on a associé, j'ai voulu faire une espèce de portrait avec des œuvres aussi d'elle, un portrait d'elle, d'un Africain en étoile, mais montrer aussi une étoile qu'elle avait choisie d'un film de Méliès, donc du tout début de la création du cinéma. Voilà, poésie et humour, mais je trouve qu'il y a quand même aussi un regard assez dramatique sur la société, en tout cas un regard très très fort et très ferme sur une société qui est très dure et laissée pour compte. Moi, je garde ce petit dessin ou ce petit papier, ce petit message écrit pour elle par l'abbé Pierre, où il y a juste écrit « et les autres » pour l'interrogation, qui est, je trouve, une des clés pour l'exposition.
Une exposition qui est d'ailleurs composée à partir de mots-clés. Il n'y a pas de grand discours, il n'y a pas de grande explication sur les lieux où ont été trouvées les œuvres, les moments, les temps de sa vie où elle a pu se les procurer. C'est vraiment des petites phrases très simples sur la peinture, sur la vie, sur l'amour qui sont réunies sur les murs fraîchement repeints de la collection Lambert, parce que vous êtes sacrément agrandi. Hein.
On s'est sacrément agrandi, on a plus que doublé de surface, on est maintenant à 5 ou 6 000 mètres carrés d'exposition.
Plus besoin de jouer des coudes.
Thierry Nyang va nous en parler tout à l'heure parce qu'il fait un spectacle avec les enfants qui se traversent dans toutes les salles du musée. Et c'est vrai qu'on a vraiment un lieu exceptionnel pour la France.
Vous avez dit que vous êtes allé à un moment piocher dans cette collection incroyable de plus de 5 000 œuvres d'Agnès B. Vous en avez gardé 400. À partir de quels critères procède-t-on à une sélection comme celle-ci? Et surtout, est-ce qu'au milieu de tout ça, il y a vraiment vous, Éric Mézil, une pépite, ou deux, trois pépites qui vous ont particulièrement marqué? Oui, c'est toujours dur de choisir.
Non, non.
Mais il doit y avoir des surprises.
Alors, je savais qu'elle avait... plus je regarde son travail, moi, je trouve que le mot éclectique lui convient. Bien sûr, c'est facile de dire cela, mais je trouve que c'est un peu trop fourre-tout. Moi, je crois qu'il y a vraiment une ligne directrice très importante. Elle est passionnée par la photographie, effectivement, mais celle des années 30, moi, j'ai vu des œuvres de Brassailles, de Man Ray, qu'on voit rarement, qui sont de purs chefs-d'œuvre. Aussi des œuvres moins connues d'Américains, je pense à Belloc, par exemple, ou bien des photos de Nan Goldin, mais les premières, toutes premières, qu'elle avait acquises vraiment à la fin des années 80, à la fin des années 70-80, quand Nan Goldin était absolument encore inconnue. Ça, ce sont vraiment des pépites, des choses formidables. Je pense aussi à des œuvres de Boetti qu'elle a pu acquérir lorsqu'il n'était pas connu, cet artiste d'origine italienne, mais qui avait vécu à Kaboul. Il avait créé cet hôtel qui s'appelait le One Hotel juste avant que l'Union soviétique de l'époque envahisse l'Afghanistan. Et je trouve qu'elle en tire un témoignage, elle en fait un témoignage. On a associé dans cette salle, par exemple, autour de l'Orient ou autour du Pakistan, avec des œuvres faites par des jeunes artistes qui ont travaillé avec de l'acrylique mêlé à des bousses de vache. Donc un travail extrêmement émouvant, poétique. Et il y a une poésie immense dans son regard, je trouve.
Malgré tout, cet assemblage de pièces, cette composition de salle en salle, nous dit beaucoup d'elle. C'est ce qu'on évoquait, des territoires de l'art qu'Agnès B. aime occuper, celui de l'enfance, des icônes du rock, le cinéma expérimental qu'elle a toujours beaucoup soutenu, la scène new-yorkaise et la peinture africaine. On va essayer d'arrêter de parler d'elle au passé et de parler elle d'elle en lui disant elle, et tenter de la voir en ligne avec nous de Paris. Agnès B., bonjour.
Bonjour Agnès.
Parviendra-t-on à mêler votre voix avec celle des cigales ?
Bonjour,
pas pour
Agnès.
L'instant. On va laisser pour l'instant les fantômes naviguer au-dessus des platanes de ce site Pasteur de l'Université d'Avignon. Agnès B., si vous nous entendez et que vous avez envie d'intervenir et que vous arrivez, vous êtes bien sûr la bienvenue. Qu'est-ce qu'on peut ajouter quand même sur cette collection ?
Ce qu'on peut ajouter, et dans les dernières salles qui sont au sous-sol du musée, et un sous-sol, ça pourrait penser que c'est les salles moins importantes, mais bien au contraire, c'est qu'elles ont été vraiment anoblies par un éclairage et un travail des architectes Berger absolument magnifique. On a choisi là de présenter des œuvres d'artistes très peu connus par les Français, qu'elle soutient depuis 20-30 ans. Je pense à des artistes comme Jonas Mekas, qui a créé un cinéma à New York, à Manhattan, qui s'appelle Archive Movie, où il essaye de constituer un fonds de films underground, et c'est elle qui l'aide énormément financièrement, toujours d'une manière extrêmement discrète. Mais là, on a montré des œuvres de lui, de Kenneth Anger, de Armory Corinne, artistes qui vous diront peut-être peu de choses, mais par exemple, comme par hasard, Armory Corinne sera présentée pendant le Festival d'automne à Beaubourg cette année. Donc il y a vraiment... C'est quelqu'un qui a été une défricheuse, avec beaucoup de secrets, beaucoup d'émotions, beaucoup de distance par rapport à le mainstream du marché de l'art. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que tout d'un coup, eh bien, les choses reviennent vers nous parce qu'elle avait l'œil. Elle avait l'œil parfois avant bien les autres, beaucoup de monde.
Once upon a time, ça n'arrivera qu'une fois. Aujourd'hui, à 17h, le danseur et chorégraphe Thierry Tian Yang va faire danser des enfants entre les murs de votre collection, de la collection Lambert.
Ça,
depuis quelques jours, il répète, c'est un stage de création Holidays Art pour des enfants de 6 à 18 ans. Pas une chorégraphie apprise par cœur, avez-vous dit, mais une improvisation dans l'oreillette guidée par la voix de ce danseur magicien, c'est-à-dire vous, Thierry Tian Yang. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Faire résonner les images avec la danse, avec les corps, l'an passé déjà avec Au cœur, votre spectacle présenté au Festival d'Avignon, chorégraphie pour 12 adolescents amateurs âgés de 8 à 18 ans, en dialogue avec des images d'enfants migrants, réfugiés. Vous avez déjà fait cette résonance, créé ce lien entre les images et la danse. Avec les mots, c'était cette fois Au cœur de l'écrivaine d'origine vietnamienne Linda Lai, Les Lumières de Claude Lévesque et Le Chant de Camille. On retrouve donc votre répertoire ici, on imagine, avec ces jeunes que vous allez faire danser à l'intérieur de cette collection, le répertoire d'une danse qui soigne, d'une danse qui réunit, avec des mouvements ouverts, qui embrassent, qui étreignent. Quel était le projet ?
Le projet était une invitation de la collection Lambert à revisiter et à surtout inviter le visiteur, la personne qui va venir voir cette exposition, qu'à l'intérieur des murs, que devant les tableaux, devant les sculptures, il y a d'autres corps, des corps des enfants, donc des enfants entre 7 ans et 18 ans, qui sont là avec moi depuis lundi. On travaille tous les après-midi in situ dans les différentes pièces du musée. Les enfants ont choisi certaines œuvres. Et à partir de là, on a commencé à chercher des matières de danse, à travailler à 2, à 3, à 10, à 26. Et c'est une déambulation, une promenade chorégraphique où le visiteur, celui qui vient voir l'exposition, va tout à l'heure à 5 heures voir aussi des corps en mouvement, des enfants. Et l'idée, c'était qu'on ne fiche pas la danse, qu'on ne fiche pas. J'avais très peu de temps et j'avais vraiment envie d'essayer quelque chose de nouveau que j'avais jamais fait. Donc les enfants ont un casque, donc et ils sont perdus dans tout le musée. Et moi, j'ai juste un micro et je leur parle et je leur raconte ce que je vois. Je leur donne des indications et les enfants tout seuls dans tout l'espace danse. Donc le visiteur peut tout à coup voir un enfant avec dans une salle, tout à coup il en voit 25 ils sont juste guidés à travers des consignes simples qui changent tous les jours pour que justement il y ait une écoute et de l'espace et des autres.
C'est-à-dire que le musée, la collection ne sera pas fermée pendant que les enfants danseront, ou c'est pas un spectacle où on reste passif à regarder danser des danseurs, à vous regarder chorégraphier ce ballet sauvage. La collection reste ouverte, on peut déambuler, regarder les œuvres en même temps et tout à coup être surpris par une sorte d'éclat de danse. Hein, c'était cette idée-là.
Oui, tout à fait. Je voulais pas, parce que d'abord j'avais très peu de temps, mettre les enfants, je l'ai déjà fait l'année dernière, en situation de spectacle.
Au garde à vous de la chorale un peu.
Voilà, c'était juste un moment donné aussi que le musée est aussi un art vivant et qu'on a besoin de l'enfance. Et le rapport avec Agnès B, c'était ça aussi. Agnès B qui soutient la jeune création depuis très longtemps, qui soutient la création en Afrique, qui soutient des artistes dans des pays de guerre. Donc tout ça, forcément, ça me touchait depuis très longtemps et c'est à cet endroit que je travaille. Mais c'était aussi que ces enfants d'ici, des enfants d'Avignon, puissent aussi s'approprier le musée autrement que simples visiteurs, mais aussi de chercher dans leurs propres gestes. Et voilà, qu'est-ce qu'une image fait, qu'est-ce qu'un tableau fait, et leur donne. Et personne n'est danseur, personne n'appartient à une école de danse. J'ai autant de garçons que de filles, et ils sont tous dans un mouvement dansé et partagé.
Éric Mézil.
Oui, non, je voulais juste dire que Thierry Tenyang est un ami depuis très longtemps, puisqu'on l'avait rencontré avec Patrice Chéreau, ce grand homme de théâtre, de cinéma, et Thierry avait été son assistant, et je dirais son dernier grand assistant, et c'est vrai qu'après la mort de Patrice Chéreau, nous avions organisé une exposition où Thierry m'avait beaucoup aidé il y a 2 ans, et on a eu de cesse de faire des projets ensemble comme ça, qui sont toujours d'une manière très très différente, une manière de s'inscrire dans le musée, ou même extérieur du musée. Ce qui est merveilleux, c'est que les enfants et les adolescents qui participent à ce spectacle sont des jeunes que l'on connaît, nous, parce qu'ils ont fait souvent des ateliers dans les musées, dans notre musée depuis des années, et sont vraiment attachés au musée, aux salles du musée, et aussi maintenant à Thierry, qui le considère comme un véritable ami. Et il y a une connexion tout à fait unique qui se crée pour que le spectacle, par exemple, de ce soir, va être complètement unique, mais comme l'an dernier, déjà, au cœur l'avait été, au point où, d'ailleurs, il avait été présenté ensuite au Châtelet, parce que ça avait été vraiment un succès formidable.
Alors, est-ce que le public de l'émission pourrait, par exemple, entrer dans la danse, Thierry Tenyang?
Alors, j'en sais rien.
Parce que là, vous pouvez faire danser le public de l'émission.
Voilà,
ce
alors,
sont des gestes simples.
On dit souvent que
des gestes qui nous font du bien.
Oui, on dit. Alors, je ne sais pas si ce sont des gestes qui font du bien. Alors, c'est vrai que j'ai une actualité qui montre tout à coup que j'aime travailler avec l'enfance. Mais aussi, tout à coup, on a découvert que je peux, auprès de personnes âgées, très âgées, réinventer, partager un geste dansé. Et voilà, et c'est vrai que je suis très ému d'être à Avignon, parce que je croise des gens de toutes les générations qui me demandent des nouvelles de Blanche, donc cette jeune fille de 90 ans. Et voilà, après, je pense que tout corps est un corps dansant, toute personne danse.
Et tout que... corps est un corps dansant.
Voilà,
toute personne danse. Vous appelez de la musique, en fait, c'est ça.
Bon, voilà. Donc c'est
vous
vrai
qu'on essaye. Moi, j'aimerais bien quand même savoir ce que vous chuchotez dans le casque de ces enfants adolescents qui parcourent et qui dansent aujourd'hui à 17h à la collection Lambert. On va tenter. Vous êtes prêts? Oui.
Oui,
pas besoin d'échauffement, je crois que tout le monde est prêt. On n'est pas obligé de se lever, hein. On peut peut-être faire ça assis.
Oui.
Alors on met la musique, on met 2 musiques que vous avez sélectionnées d'ailleurs pour cette performance tout à l'heure à la collection Lambert, du David Bowie et un titre de Bonga, je crois, pour commencer, peut-être un peu plus doux. On y va et on vous écoute, on laisse les micros ouverts hein, surtout. On vous écoute, vous nous guidez.
J'ai le trac. On ferme les yeux, fermez tous les yeux. Et puis tout doucement, vous faites un petit oui avec la tête. Puis tout doucement, on fait des petits non avec la tête. Tout doucement, on pose sa main droite sur son sternum. Et on fait bouger les 5 doigts de sa main. On tourne la tête à droite et on regarde à droite. On ferme les yeux, on tourne la tête à gauche et on imagine ce qu'on a à sa gauche.
on ouvre les yeux et on découvre. On revient les yeux, le visage face. On garde la main sur le sternum et on lève le pied opposé à la main qu'on a sur le sternum. Et puis on passe un bel été tous. Merci beaucoup.
Bravo, merci beaucoup. Merci mille fois Thierry Tenion et merci beaucoup au public du site Pasteur à l'Université d'Avignon de s'être prêté, pas au jeu, à la danse, d'être entré dans la danse avec nous. Merci mille fois. Agnès B., est-ce que vous nous entendez ?
Et oui, je vous entends et puis j'aime beaucoup l'idée. Je suis ravie qu'il y ait cette histoire de danse dans les salles. Ça me fait très plaisir. C'est formidable. Bravo.
Merci Agnès.
Et tous ces enfants, ces adolescents vont danser aujourd'hui, chorégraphiés par Thierry Tenion au milieu des œuvres que vous exposez ici. On a commencé à évoquer cette collection que vous avez prêtée à la collection Lambert, à Éric Mézil. Quelle part de vous vous offrez là au public, aux spectateurs, à ceux qui vont passer par la collection Lambert cet été jusqu'à début novembre? Qu'est-ce que vous nous montrez de vous?
Je dis toujours qu'on s'expose en exposant. J'ai une galerie depuis 83 et je sais que on s'expose en exposant. Et là, évidemment, ce sont que des choix que j'ai faits moi-même, des choix absolument réfléchis et conscients et heureux. Enfin, j'étais heureuse de pouvoir acquérir toutes ces pièces au fil du temps, grâce à mon autre travail, disons, et puis aussi grâce à la Galerie du Jour et mon travail de découverte d'artistes que j'adore faire et que je fais depuis... ça fait longtemps, je crois. 83, c'était il y a longtemps. Donc, Nan Goldin, évidemment, elle est là parce que j'étais la première à l'exposer. Donc, j'ai la chance d'avoir ces très belles photos noires et blanches de Nan, du début de sa vie avec ses amis, et les images magnifiques qu'elle en fait, et voilà. Par exemple, alors je peux parler longtemps de tout ça, et puis je peux parler longtemps d'Eric, qui a très, très bien compris ma collection et qui en a trouvé en tout cas l'essence, même si il y a plein d'autres pièces. Et il a trouvé vraiment les actes, je crois, que j'avais peut-être même pas conscience tout à fait, je sais pas. Même si politique, j'ai toujours voulu que l'art soit aussi politique. C'est très important que les artistes soient politiques, je pense. Ça aide à réfléchir aussi. Le travail artistique, ça aide à réfléchir les autres aussi. C'est pour ça que j'appelle cette exposition « On aime l'art ».
Agnès B., c'est la première fois que vous voyez associer de cette manière-là plus de 400 de vos œuvres qui nous racontent, peut-être, c'est ce qu'évoquait Éric Mézil, à vos yeux aussi, une autre histoire de l'art, une autre histoire de la peinture, une autre histoire de la photographie. Est-ce qu'il y a des correspondances que vous avez trouvées osées, inhabituelles dans cette exposition, dans cette présentation de votre collection? Ou est-ce que tout prend sens?
Je dirais que c'est l'occasion de dire qu'on est sur la même longueur d'onde, je crois, avec Eric, et que lui plus est très capable de formaliser, d'expliquer, de sentir cette collection. Il l'a très très bien senti, il l'a très bien comprise, et ça m'a fait tellement plaisir de le voir entrer là-dedans et puis faire ce choix avec lequel je suis très très d'accord. Voilà, on aurait pu faire d'autres choses, on en fera d'autres, mais c'est formidable ce qu'on a fait. Je suis ravie de ce qu'a fait Eric, vraiment.
Moi aussi.
Il y a beaucoup de
toute l'équipe est formidable à la Fondation Lambert.
Agnès B., il y a beaucoup de vos héros qui sont exposés là-bas, des héros qui vous ont ouvert les portes de l'art. Alors l'art au sens large, pas simplement la peinture, la photographie, mais aussi bien sûr la musique et le cinéma. On vous découvre cette passion pour le cinéma expérimental. Peut-être nous en dire un mot?
Le cinéma en général, et puis le cinéma. Je pense que c'est très important d'avoir une certaine culture du cinéma pour apprécier le cinéma de maintenant. Je pense que c'est très important. C'est pour ça que et le cinéma expérimental, bien sûr, il y a Ken Schanger, Jonas Mekas, tous ces amis américains fantastiques dont j'ai des œuvres et que je représente à la Galerie du Jour depuis très longtemps. Pour parler du cinéma, évidemment, Harmonie Corinne, c'est, ça peut être, lui, maintenant, il va avoir plus de 40 ans, mais je l'ai connu, il avait 23 ans, Harmonie. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de pièces de lui, il dit que je vais sauver la vie. Maintenant qu'il le dit, moi, je le dis, mais il est resté 2 ans chez moi à Paris, sans personne sache qu'il était dans le studio chez moi. Voilà. Donc, pour parler d'Harmonie, c'est un exemple, très fort d'une relation avec les artistes, une relation amicale et suivie et fidèle avec les artistes. Moi, j'aime les artistes, je passe mon temps avec les artistes, en fait. toutes sortes d'artistes, d'âges différents, très jeunes, des musiciens, des, voilà, évidemment des plasticiens, des découvertes.
Merci beaucoup Agnès Bial. À la collection Lambert, il y a actuellement 3 autres artistes phares hein, qui sont présentés. Leïla Alaoui, on l'évoquait, vous aviez d'ailleurs une de ses photographies et on la retrouve à part dans votre collection présentée là-bas, Agnès B. Et puis il y a aussi Keith Haring et Anselm Kiefer. Peut-être dire un mot avant de vous laisser filer, Eric, de cette exposition que vous lui consacrez avec la présentation de La vie secrète des plantes.
Alors ça, c'est une grande fierté, parce qu'il y a quelques années, je pense qu'on n'aurait jamais imaginé cela. Bernard Blisten, le directeur du Centre Georges Pompidou, qui organisait, enfin qui préparait il y a 2 ans les 40 ans d'anniversaire du musée, de son musée, m'a appelé pour me dire « Eric, tu choisis ce que tu veux dans le musée et tu composes une exposition à partir de cela ». Je peux vous dire que c'est assez rare qu'on propose ce genre de cadeaux. Et il a fallu réfléchir, c'était très compliqué parce que Yvon Lambert de son côté avait des choix plutôt autour de Matisse, peut-être de l'art plus moderne et des choses qu'on aurait plus de mal à avoir. C'était très compliqué bien sûr en termes d'assurance et de transport. Et très vite j'ai choisi cette œuvre, cet ensemble unique d'Anselm Kiefer, immense puisqu'il compose une salle incroyable de 10 éléments de 4 mètres sur 3 chacun, donc c'est énorme. Et qui... et sont formidables parce qu'ils avaient été présentés par Yvon Lambert dans sa galerie en 2003, acquis pour les amis du musée il y a une quinzaine d'années, et donc ils viennent à Avignon aujourd'hui comme un cadeau et comme une sorte de manière magique, et de montrer aussi que maintenant le musée d'Avignon joue dans la cour des grands grâce à des musées comme Beaubourg. Et ça pour nous c'est assez formidable parce que ça fait aussi le contrepoint avec ce que vient de dire Agnès B. Ce qui est merveilleux dans ce qu'elle a dit, c'est aussi ce rapport qu'elle a soit avec les artistes, ça c'est très clair, mais aussi avec mon équipe. Ce qui a été merveilleux, c'est le dialogue qu'elle a eu avec tout le monde. Et pour elle, je pense que c'est comme elle dans son bureau, c'est un régisseur, quelqu'un qui va prendre du son, quelqu'un qui va travailler sur des vidéos, aura la même importance que moi.
Merci.
Je me tais parce que je suis très bavard.
Non, merci beaucoup Éric Mézil, merci à vous et merci à Agnès B. d'avoir mêlé deux paris. Sa voix au son des cigales. Toujours aussi avec Thierry Tiongnan qui fait danser ses danseurs amateurs au sein de cette collection Lambert que vous dirigez, Éric Mézil. Vous avez parcouru, vous, Thierry Tiongnan, le monde avec Médecins du Monde au départ. Vous êtes psychomotricien de formation et vous continuez à le traverser, ce monde aujourd'hui, en dansant. Il est grand, ce monde aussi, à travers la collection et les œuvres qui sont exposées. Est-ce qu'il y a des salles qui vous ont particulièrement parlé, notamment celle sur l'art africain?
Oui, j'ai surtout demandé aux enfants d'être un peu les guides et d'aller chercher les œuvres. Les adolescents sont tout de suite allés vers les œuvres de l'adolescence, les images, les photos. J'ai un petit enfant qui est africain, qui est très vite allé dans cette salle de création contemporaine africaine. Mais chaque enfant, suivant sa personnalité, suivant son âge, a été mon guide pour pouvoir chercher avec les uns et les autres la danse qu'on va faire dans les différentes salles du musée. Mais le monde, oui, le monde est grand et tant mieux.
Vous avez deux territoires communs avec Agnès B. La question de la vieillesse tout simplement, hein, et l'enfance, l'adolescence, deux âges de la vie que vous observez de près, l'enfance et le territoire de l'art, hein, vraiment aussi pour vous, Thierry Tiongnan. Quand on se souvient ici de votre printemps qui avait été créé au Festival d'Avignon, c'était à l'été 2011, avec cette fois, non pas des ados, des danseurs amateurs âgés de 60 à 90 ans. Une création qui a été présentée là encore dans le monde entier et qui intégrait à chaque fois, à chaque étape, des interprètes nouveaux, des interprètes locaux à cette distribution que vous aviez bâtie ici à Avignon. De là peut-être aussi est né un autre projet, une autre rencontre-projet avec cette étonnante jeune fille de 90 ans, dont voici un extrait.
Vous entendez la musique? Est-ce que ça vous aide, la musique?
Pas pour le moment.
Pas pour le moment.
Pas.
Vous entendez pas quand on danse?
Non.
Vous restez dans la danse, tous les deux?
Oui, exactement.
On pourrait travailler en silence, tous les deux aussi?
Oui.
On pourrait danser en silence, c'est pas grave pour vous?
Oui.
Vous aimez le silence?
Oui, beaucoup.
Beaucoup?
Oui.
C'est quoi le silence pour vous?
C'est difficile à concevoir.
Est-ce qu'il peut y avoir du silence entre vous et moi?
Ah oui, certainement.
Est-ce que vous pouvez me donner un peu de votre silence et moi je vous donne un peu de mon silence?
Non, pas du tout, pas le mien.
Pourquoi pas le vôtre? Pourquoi pas le vôtre pour moi?
Je ne sais pas. Je ne suis pas née dans un même milieu comme ça.
Donc, y a pas... vous ne me donnez pas de votre silence?
Oh, je pourrais, à la longue.
À la longue. Il faut du temps pour donner son silence
oui,
à l'autre.
Oui.
Oui, vous avez raison.
Et tout ça, c'est dans la magie.
C'est de la magie.
Oui.
Oui, c'est de la magie. Je suis d'accord.
La magie dans la voix de Blanche. Blanche, 92 ballets, la mémoire qui flanche, qui vit une deuxième vie en quelques pas de danse dans les bras de Thierry Tionyang. La grâce d'une rencontre sous l'œil de Valéria Bruni-Tedeschi et de Yann Corridian, extrait d'une jeune fille de 90 ans. Un film documentaire multiprimé diffusé sur Arte le 7 janvier dernier. À voir et à revoir encore quelques temps. Quand les corps sont fatigués, la danse n'opère pas de miracle. Ce qu'elle réveille, ce sont des sensations. C'est ce qu'on voit bien dans ce film. Elle crée une respiration dans le quotidien de l'hôpital, un quotidien souvent monotone, monocorde aussi, un pas de côté dans la relation médicalisée entre les malades et les soignants. Vous êtes cette tierce personne qui éveille du désir, qui rallume des regards. Et cet été, il faut peut-être le dire, Thierry Tionyang, la jeune fille de 90 ans, elle va partir en tournée.
Oui, c'est, juste dire que c'était une expérience extraordinaire parce que c'était la première fois que je travaillais dans un hôpital avec des personnes atteintes d'Alzheimer. Avec cette chose étonnante qu'ils ne me reconnaissaient pas d'une heure sur l'autre, d'une journée après l'autre, et qu'il fallait, moi, à chaque fois, de rester au présent et d'être dans la relation, danser au présent. Avec, et on était étonnés parce qu'on a eu en 5 jours ce miracle où Blanche, qui n'avait pas parlé depuis des années, s'est mise à parler. Aujourd'hui, toujours, elle ne prend plus sa canne, elle me reconnaît pas non plus tout le temps, mais déjà elle prend plus sa canne, et qu'à travers le geste dansé, quelque chose s'est ouvert pour elle, mais aussi pour d'autres patients, pour les familles, pour le personnel de l'hôpital, et c'est vrai que ce film, je le porte et avec émotion, puisque on va partir dans différentes villes, et que ce soit Odessa, Naples, Ottawa, enfin voilà, c'est un film qui tout à coup se met à raconter des choses, à nous raconter des choses. Que faisons-nous de nos anciens? Comment on les accompagne? Comment on leur redonne des instants en tant que personne, en tant que sujet, en tant que être de désir? Et c'est assez étonnant comment la danse, elle est inscrite dans chacun et jusqu'au bout, voilà.
Thierry Tionyang, restez avec nous. La jeune fille à Odessa, hein, le 21 juillet, le 4 août à Naples, le 25 août à Séoul. Restez avec nous, on va accueillir un autre danseur, dans quelques instants, un danseur torero, un danseur de flamenco, Israël Galvan, qui est actuellement programmé dans le Inn d'Avignon. Sa fiesta commencera à partir de dimanche. On va le retrouver dans quelques minutes.
France Culture, la grande table d'été en direct d'Avignon, Olivia Gesbert.
Mais d'abord, il nous vient tout droit des Suds de Arles. Paul Wameau est poète, écriveur, slammeur et performance. Il performeur. Il sera en concert le 22 juillet au Trans Sévenol à Sumène dans le Gard. On va l'écouter et après entendre sa voix.
Otha elani ma shak ima ela elani ham eni eni ehe e. Good time. Il est ouvert le ciel des avions jaunes. Il est ouvert comme le rouge viol de nos vallées. Il est ouvert le ciel comme l'enfant cri des barbelés. Il est ouvert le ciel qui nous mange, nous, comme une mangue mûre. Il est ouvert le ciel, il est ouvert. Les grues grusent et bruissent leurs bâtisses à l'envers du soleil. les vroom vroom creusent, sous-sol mineur. Il bug sévère le mec, il bug grave, assis là comme un con, à attendre que Dieu lui crache une réponse sur la gueule. Une seule. Vocabule, air, eau et langue des feuilles. Alors il se casse le mec, il se casse. Avec elle comme Bible et la route qu'il faut prendre, il se casse et puis... Il ne faisait ni lune, ni soleil. Et puis ça pue les lendemains de bulldozer. Nous entendîmes un signe, puis deux, puis suite après suite, l'œil se fit prendre par surprise. Les bruits lointains ne cessèrent d'ululer. Ne tombe pas, mec, ne tombe pas. Il ne faisait ni lune, ni soleil. Et puis ça pue les lendemains de bulldozer. Et puis c'est triste, un mardi avec des bleus dans le ciel. On dirait que le jour va finir par mourir. Et que la nuit va prendre sa revanche. Mais rien, rien, non plus rien, non plus rien, non plus rien qu'un restant de coltard moche. Il ne faisait ni lune, ni soleil. Alors il revient le mec. Il est là. Avec elle comme pays et la route à reprendre. Il revient et puis il ne faut pas tomber mec. Pas maintenant. Pas avant que le récif nous donne son accord. Et puis c'est quoi toute cette foule là? Et puis toute la beauté du monde se logea là. Toutes ses réponses contre mille beuglements. Debout, dit-elle, debout. Maintenant que l'œil n'est plus malade. Debout. 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 Je l'ai là, je l'ai là.
Merci beaucoup, Paul Wameau, en live, en direct sur France Culture. Il défend l'identité kanak, océanienne et universelle. Ne pas être un artiste kanak qui lutte pour la survie de sa culture. Voilà encore un artiste qui abolit littéralement le mot frontière. Merci beaucoup, c'était magnifique.
Merci à vous de m'avoir invité.
Qu'est-ce que vous aviez dans les mains?
Ça, c'est des sonailles. Ça vient de nouvelles, de Vanuatu, des nouvelles hébrides, Vanuatu, une île du Pacifique. Pas loin de la Nouvelle-Calédonie, on s'en sert pour les danses.
Quelle énergie. Il y en a un autre, vous savez, ici à Avignon, qui met le feu. Le temps que vous repreniez votre souffle, on va l'entendre.
Yes.
France Culture, il est 13h38. Sacré coup de pied ou sacré coup de talon plutôt. Là, dans l'un de ses précédents spectacles solo, la courba, une chaise pliante pendait à son cou à la recherche du point d'équilibre, de la courbe parfaite. À Avignon, là où il passe, il fait tomber les chaises sans se retourner. Le danseur chorégraphe flamenco aime quand ça bascule, celui qui bouscule les codes traditionnels de la danse flamenca. Et cet été, de retour au Festival d'Avignon, 8 ans après El Final de Este Estado de Cosas, d'après l'Apocalypse de Jean, de retour donc avec la fiesta jusqu'au 23 juillet, qu'il va danser, chorégraphier dans la cour du Palais des Papes, accompagné de 6 danseurs et musiciens. Figure de style à lui tout seul, Israël Galvan, bonjour. Bonjour et bonjour à votre voix française,
Théodora
Carla.
Bonjour.
Buenos días. On vous dit plutôt timide, on vous dit plutôt discret, Israël Galvan. Parce qu'on a un tout petit peu du peine, la peine à croire quand on vous voit sur scène. De la confiance, il va vous en falloir quand même pour occuper l'espace vertigineux, imposant de la cour d'honneur du Palais des Papes ici à Avignon.
Sí, yo ahora mismo aquí en la radio estoy pasando un mal rato.
Oui, c'est-à-dire que
mal ahora mismo.
Que maintenant vraiment je suis en train de me sentir un petit peu mal.
Défaillir.
No tengo facilidad, ¿no? Para
je n'ai hablar, pas vraiment de facilité pour communiquer verbalement. Et je traite la communication avec les autres vraiment par la danse.
Bueno, yo no he aquí me dijeron que si quería bailar allí en el Palacio de los.
Oui, voilà, vous me demandez si j'avais vraiment envie de danser dans la cour d'honneur.
Yo confío en la gente que tienen confianza en mí.
En fait, j'ai confiance dans les gens qui ont confiance en moi.
Mais para yo, digamos, llenar, ¿no? El sitio, bueno, aunque somos un grupo, ¿no?
Et nous sommes un groupe, et donc je me repose aussi sur mes partenaires, bien sûr.
Alors pour celui qui a un peu le trac aujourd'hui au micro et qui ne l'aura pas du tout sur scène dimanche, entouré de ses musiciens et de ses danseurs, de sa tribu, de sa troupe, pour cette grande fête que vous allez orchestrer dans la cour du Palais des Papes, il faut peut-être essayer de comprendre quelle métamorphose s'opère en vous quand vous dansez, quand vous arrivez sur scène.
Sí, bueno, yo la metamorfosis mía va a venir antes.
Ma métamorphose va se produire avant.
Me he buscado un sitio para dormir que está a 40 minutos.
Je vais chercher un endroit pour me reposer, pour dormir.
Yo me había vestido de bailador.
Puis je vais endosser mon costume de danseur.
Y dejo mi cuerpo allí.
Et là, dans cette chambre, je vais laisser mon corps.
Y vengo para acá, bueno, que soy otro. Y luego, puis, un poquito el,
je serai la, un autre, voilà. Et je rentrerai sur la scène en étant quelqu'un d'autre. C'est ça, mon plan.
C'est ça, les hommes du Sud, en fait. Ils commencent toujours par une bonne sieste avant de pouvoir donner, on espère évidemment, le meilleur. Animal étrange, disait de vous, votre famille. Vous avez une approche très hétérodoxe de la danse, sans négliger bien sûr les fondamentaux du flamenco. Vous nous racontez une danse qui est très contemporaine, avec un geste théâtral quand il le faut. Mais il faut revenir à l'idée de cette fiesta que vous allez mettre en scène. Quelle sera cette fête? Quelle sera votre définition dansée de la fête dimanche soir, Israël Galvan?
Sí, bueno, yo siempre he estado bailando solo o con objetos.
Moi, j'ai toujours dansé seul ou avec des objets.
Entonces, la cosa nueva que quiero hacer es bailar con un grupo.
Pour moi, c'est nouveau et c'est vraiment un désir de danser avec un groupe.
Entonces, para mi raíz, ¿no? Para mi raíz flamenca, como en una fiesta es donde como es el concepto más normal del concepto, ¿no?
Pour le danseur flamenco que je suis et les racines que j'ai, la fête flamenca, c'est tout à fait normal, c'est quelque chose de très naturel.
Luego también no es la idea de que en una fiesta estemos riéndonos, ¿no? Siempre. Que no es normal que por ejemplo la fiesta, nuestra fiesta por nuestra raíz, ¿no? Por ejemplo, con cuento.
La fête correspond à nos racines. Ce n'est pas forcément une fête où on est mort de rire.
Cuento una anécdota, ¿no? De un cómic de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el muñequito este de un cómic? Galo. Un cómic galo. Sí, es un cómic.
¿Le clown?
Cómic, dibujos.
Il cherche le, je cherche le nom d'un dessin animé.
Un dessin animé,
Tedis. No remember el nombre.
Je ne me souviens pas du nom.
Es de unos dibujitos que era de origen galo. Asterix.
Voilà, je cherchais le nom de Asterix.
Entonces, pues, Hay una fiesta los galos con los ibéricos,
hein, la gente fin, de entre les...
España, cuando llegan los ibéricos,
y cuando los ibéricos arrivent,
venga, vamos a una fiesta, los galos con los ibéricos, ¿no?
Ils disent, allez, faisons la fête ensemble, les Gaulois et les Ibères.
Y los ibéricos dicen, ay, qué pena que se me ha muerto mi madre, mi padre.
Los
galos dicen, están locos los españoles.
Y los ibéricos dicen, ay, mais quelle peine j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Et les Gaulois disent, mais enfin, ces Espagnols sont-ils complètement fous?
Entonces, un poco que la fiesta, nuestra raíz, está.
C'est pour expliquer que la fête dans nos racines.
La risa, el llanto, la muerte, la religión.
Ce n'est pas que le rire, c'est le rire, les pleurs, la mort, le deuil, la tradition.
Y una cosa también per. Una fiesta personal mía también.
Et c'est aussi pour moi une fête toute personnelle.
Cette fête que votre danse flamenca provoquera, entourera quelque part, vous avez donc choisi de mettre ce feu festif dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Il faut peut-être raconter ce mot qu'on évoque souvent à propos du flamenco, ce fameux état, le duende, que vous provoquerez probablement dans votre corps, dans le corps du danseur, dans votre esprit, mais qui vous rattachera, qui vous reliera aussi aux spectateurs. Comment peuvent-ils recevoir, eux, cet état de transe quelque part ?
Sí, yo creo que cuando bailo también todo lo que me todo lo que hay, todo lo que me rodea, intento bailar con ello, ¿no?
Fait partie de ma danse.
En este caso el sitio creo que impone, tiene una personalidad muy fuerte.
Dans ce cas présent, je pense que cet endroit a une personnalité extrêmement forte.
Y hay que verlo, o sea, con normalidad.
Et je pense qu'il faut le voir de façon tout à fait naturelle.
Ni provocación ni tampoco.
Sans provocation.
Pero ni tampoco un respeto absoluto.
Et sans non plus que ça nous donne un trac fou.
Mais on a aussi vu Paul Wameau tout à l'heure presque en transe, donc on comprend aussi que la musique, la danse, l'élan se partagent à travers le corps. Thierry Tionnian, je ne sais pas si vous avez déjà vu Israël Galvan danser, il a des bras qui se déploient comme des ailes, hein. Parfois on dirait vraiment l'envol du cygne, un sacré coup de talon aussi, et un tour de pied façon buto japonais, le port de tête du torero et une forme de rentre dedans totalement tauromachique. Est-ce qu'il y a un mouvement, un geste qui est vraiment labellisé Galvan pour vous aujourd'hui?
D'abord, je crois que j'ai tout vu de Monsieur Galvan. Voilà, que j'aime beaucoup, 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 parce que voilà, parce qu'il y a un imaginaire partagé, justement, qui cherche loin dans les racines, qui cherche loin dans l'histoire du monde. Et qu'il n'a pas peur justement de mélanger et de réinventer. C'est très rare de voir un danseur comme ça. Alors un geste, je sais pas. Je crois que oui. Je crois que un moment très 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 beau, c'était un jour. Je l'ai vu. Il avait juste enlevé ses chaussures, je crois, et de voir un danseur de flamenco sans chaussures et en levant les bras tout de façon très 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 lente voilà, c'est une espèce d'oiseau aux pieds nus.
Et il y aura sur scène à vos côtés la japonaise Minako Seki pour cette influence du buto qu'on retrouve dans votre danse. Côté rock, la danseuse musicienne Eloisa Canton et puis bien sûr d'autres plus typiques du flamenco à la guitare qu'on retrouvera sur scène avec vous Israël Galvan. Une dernière petite chose, comment vous montez, quand vous montez vos pièces, est-ce que vous savez toujours où vous allez ?
Bueno, no, la verdad que me gusta empezar de la nada, del.
Moi, j'aime commencer à partir de rien.
Y poco a poco se va formando solo. Lo, lo, lo que sí tengo claro un poco
que ça se développe petit
que
à petit.
Un poco que me gusta cambiar, digamos, la manera de bailar.
Par contre, ce que j'aime, c'est modifier ma façon de danser.
Que ser cada cierto X tiempo, cada dos o cuatro años, así,
par
un
exemple,
poco cambiar.
Tous les deux ans ou tous les quatre
ans,
j'aime devenir un danseur. Différent, un nouveau danseur.
Intentar una regeneración, ¿no? Aunque siempre, aunque siempre se
quedan, que je tente à chaque fois.
Marcas, ¿no?
Bien que il y a toujours les choses d'avant qui perdurent.
Pero un poco cada vez que hago una pieza nueva, una obra nueva, quiero ser otro bailador.
Mais pour chaque nouvelle création, j'aime être un danseur nouveau.
Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Merci mille fois. On pourra donc vous voir Thierry Tiongang à 17h à la collection Lambert avec vos danseurs. Merci à vous Israël Galvan. Ce sera à partir de dimanche dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon. Le festival qui nous a accueillis toute cette semaine et ses équipes surtout, on les en remercie. Ils ont préparé et réalisé cette grande table à Avignon. Julien Rosa et Perret Legras ici avec moi à Paris. Henri Leblanc, Laurence Genepin, Anne-Catherine Lechard avec l'aide précieuse de Lily Cornaert, Laure Chastain. Qui était donc avec nous. Merci aussi aux équipes de Radio France qui ont monté cette grande table d'été. Hélène Langlois, Christophe Michou, Nicolas Depagraf et Sandrine Bréchaud, notre chargée de production. Lundi, vous gagnerez 10 minutes sur l'horaire habituel et vous retrouverez dès 12h45 Martin Kenéen aux manettes de la grande table. Merci à tous de nous avoir accompagnés toute cette semaine spéciale en direct du Festival d'Avignon. Semaine disponible à la réécoute à la page de la grande table sur le site franceculture.fr où vous pouvez également nous écrire. Plaisir aussi de vous lire et immense plaisir à l'idée de vous retrouver le 28 août prochain pour une nouvelle saison. Passez un très 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 bel été avec France Culture, bien sûr. Merci beaucoup.